Panorama économique.
Très bonne fin de semaine à toutes et à tous. Bienvenue, messieurs et dames, à Panorama économique, au menu de votre magazine cette semaine. Hausse du prix du litre de carburant en RDC. Cette hausse de 50 francs est intervenue depuis la fin de la semaine dernière. Devrait-elle, cette hausse, avoir des répercussions sur les prix d'autres produits? Le ministre de l'économie et du commerce de la RDC n'y croit pas. La nouvelle réglementation du change en RDC entre en vigueur le 25 septembre prochain et la Banque centrale du Congo continue la sensibilisation à ce sujet sur terrain. Une autre échéance qui est très imminente, celle du 12 septembre avec le registre du commerce et de crédit immobilier de l'OADA. La Commission nationale OADA-RDC a lancé un dernier appel aux retardataires et tous ces détails dans votre magazine. Le magazine Panorama économique reçoit pour les commentaires et analyses. Bienvenue Marie Bakoumania, il est journaliste au desk économie du groupe Le Potentiel. Bienvenue, bonjour et bienvenue à Panorama économique.
Bonjour et merci de m'avoir invité, Daniel.
Et devant ce micro dans ce studio, Daniel Tambinzoni et François Kadima pour vous retracer la rétrospective de l'actu économique de la semaine. François, bonjour.
Bonjour, Daniel.
Panorama économique, le dossier.
Le premier dossier de la semaine, c'est depuis le week-end dernier que les prix de différents produits pétroliers ont été revus à la hausse, aussi bien à Kinshasa et partout ailleurs en RDC.
Daniel, la troïka stratégique du début de semaine autour du Premier ministre a inscrit cette question à l'ordre du jour. Au sortir de cette réunion, le ministre de l'économie et du commerce s'est dit rassuré. Il n'y aura pas d'incidence sur les prix d'autres produits. Jean-Paul Nemouyato a dit, je cite, « Nous avons Transco et les bus du ministère du Transport qui aideront à combler le besoin en transport en commun, par exemple à Kinshasa. » Fin de citation. Il faut aussi dire que cette hausse devrait en principe être de 75 francs congolais, mais elle n'a été que de 50 francs congolais. Agathe Pona Elema nous en dit plus.
Les raisons à la base de la hausse du prix des produits pétroliers commencée en juillet dernier étaient exogènes. Le prix d'acquisition du produit à l'importation avait connu une hausse depuis le mois de février. Cumulée avec la hausse autorisée au mois de juillet par le gouvernement congolais, l'augmentation est d'aujourd'hui de l'ordre de 125 francs. Du côté des professionnels du transport dans la capitale, les yeux sont tournés vers l'autorité urbaine. Henri Lusumbu, président de l'association des chauffeurs du Congo, ASECO, est membre de la commission tarifaire.
Déjà depuis trois mois, il y avait une note technique que le chef de division urbaine de l'économie avait déposée auprès du gouverneur de la ville qui n'a pas eu d'effet. Il serait souhaitable que le gouverneur de la ville et ses services puissent s'épancher pour voir comment on peut revoir le prix de la course en taxi et taxibus.
Entre-temps, sur le terrain, les chauffeurs de taxi travaillent à perte, affirme Henri Lissoumbou. Ils pratiquent des prix qui ne correspondent pas au prix auquel ils s'approvisionnent en carburant. Selon lui, même les propriétaires des véhicules ont augmenté le montant de leur versement journalier.
Merci Agathe Pona. Dossier carburant, le prix revu à la hausse. Nous analysons et commentons cette actualité avec vous. Bienvenue Marie Bakoumania. Vous avez également eu à traiter cette actualité. La hausse du prix du carburant et le ministre de l'économie et du commerce qui pense que la hausse du prix du carburant ne peut pas influer sur les prix d'autres produits.
Non, je pense qu'il ne faut pas, des choses pareilles juste pour rassurer la population. Il faut plutôt
Pragmatique.
Il faut être pragmatique et dire la vérité à la population. Hein. Monsieur le ministre, c'est un grand économiste pour qui j'ai beaucoup de respect et il sait que en matière économique, en matière des finances, en matière d'exploitation, lorsqu'il y a un élément du coût de revient qui change, il faut pas dire aux gens que le prix à la vente ne va pas changer. Ce serait même ne pas respecter l'ordre normal dans un processus économique. Lorsque le prix du carburant bouge, le carburant étant un produit important, une matière première importante pour le conducteur, pour le transport, une matière première importante pour les industries, fatalement, les autres, la conséquence, c'est que les autres prix doivent également bouger. Donc, le ministre, c'est un politique, il veut rassurer la population, mais objectivement, sur le plan des chiffres, les choses vont bouger, il y aura des légères augmentations qui seront constatées par rapport à ce prix. Il faut dire également que lorsque en très peu de temps, on enregistre autant d'augmentations...
De juillet à septembre, déjà,
ça 125 francs congolais, ouais. Le litre, c'est énorme, ouais. C'est énorme. Et lorsqu'on dit au même moment que, d'autre part, les transports en commun ne connaîtra pas de surchauffe, c'est vraiment... ne pas dire la vérité à la population. Même Transco, parce qu'on a évoqué Transco, et parce que vous l'évoquez vous aussi. Transco, il travaille pratiquement à perte. Transco travaille à perte sous le prix d'un billet. L'État prélève déjà 80 francs congolais.
C'est pas vrai.
Oui, de la TVA, oui. 80 francs congolais. Transco ne reste qu'avec 420. Et les 420 permettront-ils à Transco d'amortir l'outil de production? Est-ce que ça permettrait
la prise en charge du
personnel, les intrants? Je pense que de ce côté-là, la subvention qu'apporte l'État congolais à travers du carburant est une subvention qui est même insuffisante, ne permettrait pas à cette allure. On va tuer Transco et on ne sera pas en mesure de renouveler le parc automobile de Transco, d'importer suffisamment de matériel,
de pièces d'échange.
Et ça connaîtra le sort des STIC, de LCK, de CITICA, de tout ce que vous voulez là. Donc moi je ne vois pas comment on va s'en sortir autrement que par la vérité des prix. Moi, je pense qu'il faut appliquer la vérité des prix en ce qui concerne les transports en commun.
Arriver
à la hausse. Il faut pas faire la politique du social pour que par après on puisse tomber. Il faut que s'il faut mettre le prix à 1000 francs, mieux vaut mettre à 1000 francs parce qu'on paye déjà 1000 francs à certains tronçons plutôt que de laisser les chauffeurs sectionner les tronçons et finalement on se retrouve à 2000 francs, 3000 francs. Moi, je pense que la vérité des prix, c'est la meilleure de solutions dans une économie qui se veut libérale.
Et puis le deuxième dossier de la semaine, ce deuxième dossier qui revient sur deux échéances qui sont grandes, pas le moindre, l'une le 12 septembre et l'autre le 25 septembre prochain. Le 25 septembre, c'est la date d'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation de change en République démocratique du Congo. Les opérateurs économiques en particulier et les citoyens congolais en général sont concernés par cette disposition qui vise désormais à ce que les choses se fassent en francs congolais, en monnaie nationale sur le territoire national.
Voilà une autre échéance, c'est le 12 septembre, Daniel, la date à partir de laquelle tout commerçant en RDC doit posséder le registre de commerce et de crédit immobilier RCCM de l'OADA. Je propose à ce sujet d'écouter le président de la commission nationale OADA RDC, le professeur Roger Massamba.
Je voudrais donc rappeler que la date d'expiration de la période transitoire durant laquelle les sociétés et les commerçants sont tenus d'accomplir un certain nombre de formalités en rapport avec l'OADA, cette date expire bien le 12 septembre 2014. La semaine prochaine, donc à cette date-là, tout commerçant et toute société commerciale est censé avoir soit échangé son NRC avec un RCCM pour les commerçants personnes physiques, soit pour les sociétés commerciales, avoir mis en harmonie ses statuts avec le droit OADA et avoir aussi obtenu un RCCM. Faute de quoi, il peut y avoir une période d'inconfort et surtout des sanctions civiles ou pénales.
C'est-à-dire?
Bon, sur le plan civil, d'abord le dirigeant de société qui a été négligent pourra, disons, sa responsabilité civile sera engagée. Par ailleurs, en matière de procédure, la société ou le commerçant qui n'a pas de registre de commerce aura du mal à exercer une action en justice en tant que demandeur. En particulier, la société commerciale aura du mal à prouver son existence légale. Mais il y a aussi d'autres sanctions comme une injonction ordonnée par le tribunal de régulariser la situation sous astreinte, c'est-à-dire en payant chaque jour, par exemple, un montant. Sur le plan pénal, l'acte uniforme sur le droit commercial général prévoit aussi des sanctions, prévoit que le fait de ne pas régulariser sa situation constitue une infraction pénale et en renvoyant aux États la détermination donc des peines.
Le 12 septembre, tout opérateur congolais doit avoir le RCCM. Nous sommes en train de faire aussi la sensibilisation à notre manière depuis un certain temps par la voix des médias. Bienvenue, vous l'avez fait. Certainement, vous avez aussi écrit par rapport à ce rendez-vous. Mais c'est de certains analystes. Ils pensent que la RDC n'était pas assez préparée à adhérer l'OADA.
Oui, cette mutation qui va se faire sans une grande sensibilisation de l'opinion, c'est un saut quasiment dans les vides. Et pourtant, on a eu suffisamment de temps. On a même reporté. Hein, on avait du temps matériel important pour opérer une grande sensibilisation. Tout de suite, on me dira ça concerne une catégorie donnée de la population. Ça ne concerne pas le grand public. Ce sont des opérateurs économiques qui sont concernés. Ben, dites-vous bien que ces opérateurs économiques ont également droit à être objectivement informés. Je pense que si le processus de communication a connu un déficit, cela revient au comité mis en place sur le plan local, sur le plan national, pour que l'on puisse sensibiliser les gens. Je pense que l'OADA, pour le commun des Congolais, c'est un saut dans le vide. Pour le commun des Congolais, c'est une nouveauté qui n'est pas encore intégrée, qui n'est pas encore bien comprise.
Dans un premier temps, c'était un document gratuit, vous présentez le NRC, on vous remet le RCCM. Oui. Mais il y a quelques semaines, deux semaines, les échos qui venaient de Mbujimaï,
oui.
Il fallait, par exemple, pour des établissements qui étaient supposés obtenir ce document sans aucun frais, on demandait déjà $20, oui. Quelque chose comme ça. Donc, de l'autre côté, le tribunal de commerce, il n'y en a pas dans toutes les provinces. Les tribunaux de grande instance, on peut en avoir dans toutes les provinces, mais parfois à des distances très éloignées des lieux d'activité. Mm-hmm. Tout ça, c'est des problèmes auxquels il fallait penser les deux années durant de prolongation.
Et puis, Daniel, cette autre précision, pour l'établissement, ça ne devrait pas coûter
voilà.
De l'argent, mais pour les sociétés, il faut verser plus de $100.
Et vous vous rendez compte que ça va créer, il y aura une période de flottement, hein, ça c'est sans aucun doute, une période de flottement. Pendant cette période, tout peut arriver. Tout peut arriver en ce sens que les finances de l'État peuvent connaître une chute drastique de recettes. Hein, ce sont des craintes qu'on doit entrevoir déjà. Gouverner, c'est prévoir. On doit entrevoir déjà aujourd'hui que la possibilité qu'il y ait une chute des recettes puisse être enregistrée. Parce que simplement, les gens n'ont pas compris qu'il faut, on est en train de muter, on est en train de migrer vers l'OADA et le droit OADA a des exigences que, ma foi, jusque-là, difficilement comprises, l'applicabilité risque également de poser sérieusement de problèmes. Mais je ne suis pas pessimiste, les gens qui pilotent le processus sont des personnes aguerries en la matière, je pense qu'ils vont apporter des correctifs qu'il faut et je pense qu'il y aura également du côté de l'État une certaine souplesse qui puisse permettre à ce que les choses puissent aller lentement, mais de manière contrôlée, maîtrisée, vers une maîtrise parfaite.
Et je pense qu'on revient à l'autre volet des échéances que nous avons annoncées. Le 25 prochain, c'est l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation du change en République démocratique du Congo. Il y a la semaine passée, au courant de la semaine, nous avons posé la question aux cambistes de ceux qui manipulent l'argent dans les rues, les changeurs de monnaie, il leur a été demandé d'opérer désormais dans des bureaux d'échange. Et la caution pour ouvrir un bureau de banque de change, c'est 3 500 selon la réglementation de change. Ils attendaient à ce que la réglementation de change vienne assouplir ces dispositions et la Banque centrale qui dit non.
Ces dispositions restent telles quelles.
Oui, je pense que c'est avec raison que la Banque centrale demande à ce que ceux qui vont manipuler notre argent soient des personnes crédibles. Hein, lorsqu'on est incapable de réunir 3 500 $, donc on peut faire autre chose. Oui, on peut exercer une autre activité commerciale sans nécessairement faire le commerce de l'argent. Dans l'éventualité où ils sont déterminés à poursuivre cette activité lucrative et qu'il manque 3 500 $ de caution à verser à la Banque centrale, moi je crois qu'ils peuvent se regrouper. 4-5 cambistes se mettent ensemble, ils mettent le moyen ensemble et ils fonctionnent ensemble pour que nous aussi, nous n'avons pas à nous complaire dans des situations d'exception et à applaudir.
Je pense que c'est peut-être François n'est pas de cet avis parce qu'on a eu à discuter longtemps. Pour lui, 3 500, c'est beaucoup trop.
Bon, en fait, ils ont également estimé qu'il fallait rester en groupe, donc 3, 4, 5.
Mais c'est mieux.
$1 500.
Le problème ici, c'est que le Congolais n'aime jamais se mettre ensemble pour travailler.
Ensemble, on est fort.
Je veux être patron chez moi, voilà. Qu'on me dise patron, voilà. Daniel, patron François, patron bienvenue. Oui. Mais on ne veut pas que nous nous mettions ensemble. Voilà. Ensemble, on est fort. Tu peux amener sur les 3 500, je peux amener 1 500 et les deux autres parties amènent 1 000. Et nous avons notre bureau, oui. Et nous organisons et puis nous travaillons. On sait comment répartir les bénéfices.
Oui. Et voilà. Avant d'avoir même les 1 500, si vous êtes en groupe, il faut avoir un capital de départ. Vous avez quel capital?
Justement, pourquoi vous n'êtes pas capable de faire l'échange. Allez-y, ouvrez une petite boutique. Vous allez acheter la patente.
Vendez les cacahuètes.
La patente, c'est à $10. C'est à...
Oui, parce que le danger, c'est quoi? Le danger, c'est que lorsque la personne n'offre pas suffisamment de garantie et qu'il est sur un bureau et moi, je vais échanger $5 000. Il peut, comme sa caution, c'est seulement 3 000, il peut facilement s'écranter.
Voilà.
Il peut prendre donc l'État, la Banque centrale a raison de mettre suffisamment le niveau de la caution pour que les aventuriers puissent être dissuadés. Ouais. Je pense que cette stratégie est la bonne et ça va obliger les uns et les autres, notamment les cambistes, à se mettre ensemble. Je pense que là, il n'y a pas mieux que de se mettre ensemble. On a même proposé ça à des journaux qui paraissent à l'improviste. Ben, vous êtes 3-4 types, mettez-vous ensemble, mettez les énergies ensemble, mettez vos marchés ensemble. Ben, facilement, vous pouvez commencer à paraître une fois toute la semaine. Ça s'apprend déjà au bas âge. Nous n'apprenons pas à nos enfants. Vous voyez seulement aux écoles de la Gombe, comment on fait. Chaque enfant vit avec une limousine. Une limousine vient déposer chaque enfant au point que quand il fait midi, vous prenez
la même limousine,
vient le chercher et il y a des embouteillages monstres. Alors qu'on pouvait facilement demander à ses parents nantis de se cotiser, d'acheter des bus qui prendraient les enfants des nantis, d'aller déposer à une même école. Ils auront maintenant le sentiment d'être ensemble. Même si on n'est pas obligé de les mettre avec nos enfants, les pauvres, mais eux, ils seront quand même ensemble, ils auront le sentiment de travailler aussi ensemble. Mais étant donné qu'ils ont grandi dans un environnement solitaire.
10 enfants, c'est 10 véhicules.
10 véhicules, oui, et c'est l'embouteillage.
50 véhicules.
Mais vous verrez le 8, après la rentrée, vous verrez vous-même, la route des GB sera impraticable, le collège Boboto sera impraticable, l'avenue qui mène à l'hôpital Kitambo sera impraticable. Donc, même sur le plan économique, les gouvernements, la ville de Kinshasa souffre d'un déficit d'imagination. Il y a moyen de faire mieux. On ferait l'économie des embouteillages, ça veut dire l'économie du temps, on gagnerait en termes de production, etc. Donc, travailler ensemble, c'est toujours bon. L'unité, l'union fait véritablement la force.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Okapi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance, reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Le reste de l'actualité économique dans les provinces en bref, nous le disions lundi, plusieurs quartiers de la ville de Mbujimayi au Kasaï oriental étaient plongés dans le noir. Cette situation qui s'est élargie au poste résidentiel de la Miba n'a pas manqué d'avoir des incidences sur les activités commerciales de certains abonnés et même des personnes exerçant le petit commerce dans la ville.
Toujours lundi, la Banque centrale du Congo a émis un appel d'offres national. Elle compte acquérir des fournitures de bureaux, des consommables informatiques et des imprimés ordinaires. Les soumissionnaires devront remettre 3 plis fermés contenant chacun un des articles sollicités. 1 million de francs congolais, c'est la garantie à présenter lors de la soumission, et 460 000 francs congolais, c'est le montant à payer pour obtenir le dossier d'appel d'offres à la sous-direction des approvisionnements de la Banque centrale du Congo.
L'inspecteur de l'agriculture, pêche et élevage de Olomami dénonce l'échec de la campagne électorale 2013-2014 dans les territoires de Kabongo, Kanyama et Kanyama. C'était mardi, selon Évariste Kazembe, les agriculteurs éprouvent d'énormes difficultés pour évacuer les produits agricoles. Les commerçants qui sont censés acheter ces produits n'atteignent pas les lieux de négoce à cause du mauvais état de route des déserts agricoles, un délabrement qui dure depuis plus de 10 ans, d'après Évariste Kazembe.
Pendant ce temps, et toujours mardi, Fiston Goma Mayabala de Pouvira nous parlait de l'Institut international de l'agriculture tropicale, Ita Sigle, qui a lancé la formation de 40 agroproducteurs à Ouvira sur la multiplication rapide des boutures saines de manioc et la gestion intégrée des mauvaises herbes, des maladies et des ravageurs.
À Kinshasa, ce sont les exportateurs du café de la RDC qui se plaignent de la pression fiscale à laquelle ils font face et le non-respect de textes de réforme du secteur agricole. Cette pression, selon eux, est consécutive essentiellement à l'application de taux très exorbitants d'impôts et de taxes perçus par les régies financières et les frais de prestation des offices publics. Dans un mémorandum remis aux autorités du pays, dont le ministre de l'Économie, leur association souligne que cette situation entraîne un écart de prix significatif entre celui offert par les acheteurs congolais et ceux des États voisins. Cela a comme conséquence notamment la non-compétitivité du café congolais sur le marché international.
Province orientale, la société civile du district de Bounia a déclaré que l'entreprise pétrolière Total dispose déjà de fonds pour financer les travaux de réhabilitation de l'axe routier Bogoro, Boga, Bourassi en Ituri, la même société civile qui accuse le gouverneur de province, donc la province orientale, de traiter ce dossier avec léthargie. Une accusation que le gouverneur Jean Bamanissa rejette. Il estime que la société civile de l'Ituri s'agite pour rien car il n'y avait pas encore de fonds disponibles.
Au sud Kivu, des acteurs de base de l'Est de la RDC et l'Union européenne ont réfléchi cette semaine sur comment lutter efficacement contre l'exploitation illégale des minerais des pays de la CIRGL. Ils se sont réunis lundi et mardi à Goma. Selon les organisateurs, la rencontre visait à expliquer aux participants, notamment les responsables des coopératives et comptoirs miniers, les 6 outils mis en place par les chefs d'État de la sous-région pour lutter efficacement contre ce phénomène. Le coordonnateur national de la CIRGL en RDC, Baudouin Amouli Kabaruza, a dit que la mise en place d'une banque de données régionale en matière de minerais est un des moyens qui permettra au pays de connaître leurs statistiques.
Le comité des créateurs de Mukungwe dans le territoire de Walungu menace de rompre l'engagement avec la société Banro, et pour cause, Banro tarde à démarrer les activités qui permettraient aux créateurs de se retrouver économiquement. En réaction, Banro demande à ce comité de choisir son camp tout en sachant que le processus est en cours et que rien ne pourra l'arrêter.
Et nous allons terminer par les plaques d'immatriculation auto et moto, de nouveau disponible à la Direction Générale des Impôts, Centre de Monnaie d'Itou. Vous comprenez que nous sommes en province du Kasaï Oriental. La DGI Monnaie d'Itou a fait savoir que ces plaques reviennent à 150 000 francs congolais pour les véhicules et 50 000 francs pour les motos. La Fédération des entreprises du Congo, antenne locale de Moneditou, se dit satisfaite de l'arrivée de ces plaques après 5 mois d'interruption de stock. Et voilà, bienvenue. Vous avez certainement noté quelque chose et je pense que la pression fiscale vous a toujours donné à dire.
Oui, j'ai noté pratiquement 4 actualités qui me semblent sortir du lot et je commencerai plutôt par la certification Sirgel de la RDC. Hein, c'est une, vous savez, dans ce pays, il y a des intelligences, il y a des compétences. La certification de la RDC, c'était décidé, la certification des minerais dans la sous-région des Grands Lacs était décidée depuis 2010.
Oui.
Et les Congolais, dans leur intelligence, nous avons des compétences, nous avons des expertises dans notre pays, notamment à la CESC. Ils ont mis en place une certification qui n'a rien à envier à d'autres certifications à travers le monde. Et c'est comme ça qu'ils sont en train de vulgariser ce qu'ils ont mis en place. Ils ont même effectué des déplacements vers des pays voisins. Le plus intéressant dans ce qu'ils font, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde les statistiques, notamment du Rwanda, je me permets de le citer parce que j'ai eu à comparer les chiffres, hein, les exportations du Rwanda, la production du Rwanda a chuté quasiment de moitié.
Partant de cette certification.
Ah ben oui, partant de cette certification, démontrant que ce qui était produit au Rwanda provenait de la République démocratique du Congo. Je pense qu'avec cet effort, une poursuite de cet effort peut permettre à ce que nous puissions arriver au niveau des 100%.
C'est que le génie congolais peut répondre aux besoins congolais.
Absolument. Lorsqu'ils sont mis dans les Congolais compétents, lorsqu'ils sont mis à la place qu'il faut, ils vous donnent du résultat, ils vous produisent du résultat. Alors, l'autre point que j'ai noté, c'est par rapport à la pression fiscale.
Oui.
C'est une pression qui est une pression inacceptable. Une pression inacceptable. Le peu de gens qui payent les taxes sont asphyxiés, on met toutes les charges sur eux. Au point que l'État ne se rend pas compte qu'en asphyxiant les opérateurs économiques qui payent quand même les taxes, hein, les 20% qui payent quand même les taxes, en les asphyxiant, in fine, on va tuer la poule aux œufs d'or. Donc, il n'y aura plus de taxes du tout, parce qu'il n'y aura personne pour payer les taxes. Parce qu'on les aurait asphyxiés. La meilleure solution, on l'a toujours dit, élargissez l'assiette. Élargissez l'assiette hein, par des intelligences, et les intelligences on n'en manque pas, par des stratégies hein, qui pourraient permettre à ce que tout ce qui évolue dans l'informel puisse rentrer
dans le formel. C'est la même pour le café, vous avez suivi pour les exportateurs de café, ils disent que ça rend notre café non compétitif sur le marché international.
Justement,
que vous avez payé beaucoup de taxes, vous présentez un café très cher par rapport à d'autres qui vendent moins cher. Moins cher. Carrément, on va vers ce qui offre mieux.
Ben non, écoutez, carrément, les exportateurs congolais passent par la fraude. Hein, c'est ça la grande difficulté hein, qu'on peut enregistrer à ce stade. Parce que là, quand il y a la fraude, le perdant, ce n'est pas... C'est le trésor public. C'est le trésor public qui perd. Vous allez arrêter peut-être 2 ou 3 opérateurs économiques, mais dans leur majorité, ils vont passer par les mailles et exporter par les pays étrangers. Et puis, avant dernier point que j'ai noté, la campagne agricole, vous avez parlé des campagnes électorales, c'est la campagne agricole.
Campagne agricole. Voilà, merci la campagne de électorale. C'était la campagne agricole.
Oui. Voilà. La campagne agricole, ils butaient par le problème de voie de communication. Hein, ça veut dire que les 5 chantiers, il y a encore du travail à faire. Il y a encore du travail à faire pour relier ce pays aux dimensions.
Je pense qu'on parle plus de 5 chantiers, on parle maintenant de la modernité.
Non, vous savez Daniel, les chantiers dans une république, c'est quelque chose de permanent.
On n'en finit jamais.
On construit, hein, ça s'amortit et on reconstruit. Ce sont toujours des chantiers. Et même quand il faut entretenir hein, quelque chose qui a été construit, c'est encore un chantier. Donc, c'est dire que les 5 chantiers ont encore
beaucoup,
du travail. Il y a du pain sur la planche. Ouais. Il faut travailler pour désenclaver ce pays aux dimensions continentales. Et je vais terminer par le point en rapport avec l'approvisionnement en électricité en Mbujimayi. C'est quand même extraordinaire. On est parti des 8 mégawatts que produisait la MIBA. On est aujourd'hui à 2 mégawatts qui sont produits de manière homéopathique. Alors qu'il y a possibilité de produire avec ce barrage-là, il y a possibilité de produire, d'aller jusqu'à 32 mégawatts.
Vous vous rendez compte que il suffit de mobiliser 50 millions de dollars pour qu'on puisse atteindre ce résultat. Et à côté, il y a aussi le projet Katende. Tout le monde, on inaugure, mais finalement, ça n'avance toujours pas. On inaugure les chantiers, mais on n'inaugure pas les machines qui produisent l'électricité. Je pense qu'il y a plutôt un problème de volonté. Il y a un problème de volonté. S'il y avait la volonté, je dis quand on a mis en avant une volonté, Bougangalonzo est là et 83 milliards sont disponibles, millions de dollars américains disponibles. Si on veut booster Mbujimayi, réquinquer cette ville de Mbujimayi, la capitale mondiale du diamant, vraiment. Si on veut le faire, on a 40 disponibles, 50 de dollars, on aura de l'électricité, la production va augmenter. Ce qui est vrai pour Mbujimayi, il est aussi pour les Katanga. Pour les Katanga, les miniers ne font que pleurer. Il y a un déficit en électricité, tel que tôt ou tard, bientôt, là, dans une échéance plus ou moins rapprochée, nous allons connaître une baisse de production au niveau du cuivre, du diamant, et là, avec notre croissance qui est faute d'énergie, notre croissance qui est soutenue par principalement le secteur minier, nous avons intérêt tous à aller vers l'avant.
Allons tous vers l'avant, c'est l'intérêt de tout Congolais. Merci, bienvenue Marie Bakoumania d'avoir accepté d'analyser, de commenter cette actualité économique sur Radio Okapi.
C'était avec plaisir.
Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir prêté votre attention. Retrouvez Panorama économique toute la semaine sur www.radiookapi.net. Au revoir.